À tous un excellent lundi. C'est 12 degrés sur Québec. Les températures automnales qui s'amènent.
C'est le bonheur.
Madame Pinchot va être heureuse.
Oh là 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 là.
Elle va être heureuse. Généralement nuageux pour aujourd'hui avec des probabilités d'averse à 40 % maximum de 16 ce soir, cette nuit partiellement nuageux, minimum de 6. Demain mardi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 18 degrés. À plus long terme, mercredi, ensoleillé maximum de 22. Jeudi, ça se réchauffe, maximum de 23. Et vendredi, ensoleillé maximum de 24. Donc, on va être gâtés pour une bonne partie de la semaine.
Sur la rive sud, il y a comme un gros accident en ce moment qui fait que c'est super dur de circuler sur la 20 Est. C'est une fermeture, en fait, entre le kilomètre 253 et 261. Pour vous donner une idée, le Val-Alain, le détour, c'est par la route 132. Mais quand je regarde sur la carte en ce moment, mettons, entre Chemin des Îles puis un peu dépassé Taniata sur la 20 Ouest, très difficile de circuler. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021 par texto.
Audrey, on reçoit un surhomme aujourd'hui.
Oui!
Il a été propriétaire de Sushi Taxi pendant des années et des années. C'est lui qui avait mis ça en place. Je pense qu'il avait, à la toute fin, là, avant qu'il vende, il y avait 19 restos, 350 employés. Il a été propriétaire de Bouddha Station. Là, à cette heure, il est propriétaire de Fish Club Privé, Empire Academy. Il est professeur à l'École de l'entrepreneurship. Il est conférencier, puis il est auteur aussi d'un livre qui s'appelle « 12 rounds de leadership ». Il doit avoir 125 ans.
Oui, mais pour avoir fait tout ça, j'avoue que ça te prend quelqu'un avec quand même de l'expérience. Il n'y a pas l'air si vieux que ça, faut dire.
Christian Genet est en studio avec nous autres. Salut, Christian.
Salut. Pas merci. 125 ans, 49 en passant.
Ah,
j'ai 3 vies.
Comment?
3 vies, par exemple.
3 vies. Avec du recul, tu te dis-tu, tabarouette, il me semble que j'en ai fait des affaires.
Avec le recul, je me dis, il s'est passé des trucs. Souvent, on se dit, c'est la fin du monde, je vais pas survivre à ça. Puis finalement, un an, deux ans, cinq ans plus tard, tu te dis, ouais, finalement, j'ai fait un gros cas de ça, mais c'était pas la fin du monde.
On avait envie de jaser aujourd'hui parce qu'on a vu la sortie de ton livre. Ça fait à peu près une semaine et demie là, que c'est sorti, si je me trompe pas. C'est un livre qui s'appelle, 12 rounds de leadership pour mettre KO le petit boss en soi. Puis le principe de ce livre-là, c'est de parler, en fait, des patrons toxiques. Il y a les boss, puis il y a les leaders, tu sais, qu'on appelle. Puis de ce que je comprends, t'as été ce mauvais patron-là et c'est ce qui t'a mené à écrire ce livre-là. Ouais. Comment ça t'as été un mauvais patron?
Dans ma jeunesse, là, quand j'ai étudié à l'université, j'ai trempé dans les bars de danseuses à l'époque. J'étais gérant d'un club de danseuses pendant 4 ans. Fait que, tu sais, j'ai trempé dans un milieu qui était toxique. Des gens qui crient, qui font des menaces physiques, psychologiques. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ben ils lèvent le ton. Ou bien même, tu sais, tout marche selon des ordres, puis ça doit être exécuté en conséquence de manière parfaite. Fait que ça a trempé en moi pendant 4 ans, cette espèce de marinade-là, tu sais. Puis quand je me suis lancé en affaires, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans, mais je me sentais imposteur. Mes parents n'étaient pas des entrepreneurs, j'avais pas d'argent de famille, j'avais pas étudié en finance. Pour me faire une place, ça a été un réflexe dans les premiers mois, dans un milieu qui était tough, de lever le ton, de vouloir être vraiment quelqu'un qui plie jamais, qui a une grosse armure, qui est en négociation, laisse jamais la place à personne d'autre, bien ça, j'aime dire que ça m'a peut-être servi à me faire une place dans le monde de l'alimentation pendant 3-6 mois, mais ça me nuit pendant 15 ans, sincèrement. Puis c'est des réflexes que, malgré le fait que j'avais évolué, m'ont tout le temps suivi, t'sais, la rumeur de la rumeur, à travers les employés, bien c'est ce qui se déroulait.
En fait, tu as juste reproduit un modèle que toi, tu avais appris au départ dans ta jeunesse quand tu as commencé à travailler dans les bars et tout ça. Au même titre que, tu sais, moi, dans la restauration, j'ai travaillé avec des Grecs, puis j'ai travaillé avec des Italiens dans la cuisine, là. Écoute, c'était l'asile, là.
On t'a déjà tiré une poêle par la tête, genre.
pendant le rush, tout le monde se criait après. Ouais. Après le rush, tout le monde était les meilleurs amis du monde, puis ils prenaient un verre de vin avec toi et tout ça. Mais c'était une façon de faire à l'époque qui est peut-être plus adaptée à aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui. T'as-tu parti Sushi Taxi avec 500$ pour vrai?
Ouais, 500$ sur ma carte de crédit. Avec un téléphone, à peu près ça d'épais à l'époque. Je prenais des mini-annonces dans le journal Voir.
Ouais.
Puis là, j'aime dire que mon premier vrai métier, c'était d'être comédien parce que le téléphone sonnait puis je disais, attendez, je vais vérifier avec le chef.
OK, mais c'était toi.
Ouais. Là, j'allais livrer un client. Puis là, je disais, ben je vais vérifier avec notre hôtesse, elle qui place tout ça, les commandes, puis je vous rappelle. C'était pour gagner du temps parce que je retournais chez nous, préparer une autre commande, puis je partais la livrer. Alors, j'ai parti une entreprise comme ça.
Oh, mon Dieu, OK, tu jouais tous les rôles, là. Tu faisais tout toi-même.
Oui, j'ai fait ça. Pendant tout près d'un an, jusqu'à temps que là, ben je commençais à avoir un petit revenu plus sécure. Ouais. Là, je me suis installé sur un premier pignon.
Puis, il est où le moment où tu t'es comme rendu compte que d'être un petit boss de bécosse, ce que j'aime appeler, ça fonctionnerait pas?
Ça a pris quand même un moment. Là, je te dirais, la troisième année où là, je commençais à avoir peut-être 6-7 employés. Et puis, j'arrivais pas, tu sais, à les rentrer dans mes projets, à les inspirer, à les motiver. Puis là, je me suis mis à me poser des questions justement sur la façon dont j'interagissais avec eux autres. Puis plus tard, tu sais, c'est malgré que je m'intéressais à ça, ben j'avais pas changé tant mes processus et tout ça. Mes valeurs avaient évolué, mais c'était pas clair. J'étais pas quelqu'un qui communiquait bien, puis j'avais beaucoup, beaucoup de roulements d'employés. Ça me faisait mal, tu sais. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser à ça, à apprendre, à suivre des cours. Puis j'en ai fait un dada. Les nouvelles entreprises que j'ai créées, même, j'ai créé ça en prenant ce positionnement-là, il y a beaucoup plus de leadership, ça a donné immédiatement des résultats.
Fait qu'il y a personne qui t'a rentré dedans en disant « t'es un boss de merde, c'est vraiment
ben oui,
toi qui
a pris... » Oui, plusieurs fois, okay. Attends un peu. Là.
Fait que ça a aidé à la réflexion, ben ça, oui, là, parce que je te trouvais très sage dans toute ta réflexion.
C'est un gars qui a appris beaucoup par les claques à la gueule dans la vie, tu sais. Okay. Effectivement, ça, ce genre de positionnement-là, je l'ai eu souvent.
Mais t'sais. T'avais une chemise anti-balle quand on te disait « t'es un boss de merde », ça rebondissait sur toi?
J'étais un gars qui allait au travail, moi, avec un masque le matin. Je, dans ma tête, pour être entrepreneur, il fallait que tu sois un tough. Ça n'avait pas d'émotion. Les émotions, c'était à la maison. Les amis, c'était dans ta vie privée. Puis, tu sais, il y avait comme deux rôles complètement distincts jusqu'à temps qu'un jour, je me sente un peu là-dedans, un peu beaucoup mal. J'allais travailler le matin, j'ai le goût de vomir. J'ai plus envie de mettre mon masque. Le gars qui est trippant dans sa vie privée, qui prend soin de ses amis, qui est attentionné, j'avais besoin d'être cette même personne-là dans la vie de tous les jours, au travail, tu sais. Et là, je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus coexister, tu sais, deux personnalités différentes.
Tes chums, t'en rendais-tu compte de ça?
Ben non, parce que je parlais pas beaucoup du travail, puis j'avais pas d'amis de travail ou qui me côtoyaient pas à travers tout ça, là, tu sais. Puis, tu sais, je reviens sur ce que tu disais, Audrey. Tu sais, le leadership puis être patron, c'est deux choses qui sont vraiment à l'opposé. C'est pas parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe de hockey que tu es nécessairement le leader. C'est pas parce non plus que tu es le propriétaire d'une entreprise, le vice-président d'une entreprise, que tu es non plus un leader. Tu peux être un patron, mais pas un leader. T'sais, le leader, là, c'est quelqu'un que les gens aiment suivre parce qu'il prend soin d'eux, parce qu'on lui fait confiance, puis parce qu'il les guide vers un objectif commun. Fait que un leader, ça peut être une mère de famille. T'sais, que... Elle, l'important, c'est que tout le monde dans la famille s'épanouisse, puis c'est le bien de la famille, c'est l'unité de la famille. Ça peut être quelqu'un qui est dans une équipe de sport, ça peut être un député à l'Assemblée nationale, puis évidemment, ça peut être dans nos entreprises.
C'est une question d'attitude, en fait.
Bien, c'est une question d'attitude, de comportement. C'est des connaissances qui s'apprennent, mais surtout qui se pratiquent. Puis tu sais, c'est comme devenir parent, c'est quelque chose qui est facilement possible pour beaucoup de personnes de devenir un leader. Mais est-ce que c'est nécessairement que tout le monde a envie de ça? Non. Puis est-ce que c'est souhaitable pour tout le monde? Non plus, je pense. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend puis qui doit se mettre en pratique puis s'ajuster.
C'est une drôle de question, là, mais est-ce que tu t'es excusé? Dans le sens que j'ai l'impression que quand t'es peut-être cette personne-là qui mine une ambiance ou qui est pas nécessairement correct auprès de ses pairs, qui, tu sais, c'est une réputation qui te suit, surtout quand t'es entrepreneur. Mmh. On dit souvent que Québec, c'est comme un grand village aussi, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens à qui t'as dû t'excuser pour être capable d'avancer puis de continuer d'être ce bon entrepreneur-là?
Tout plein de gens à qui je me suis excusé, mais pour répondre à ta question, je me suis pardonné quand j'ai compris. J'ai voulu évoluer, j'ai fait évoluer mes valeurs, mais aussi encore à toutes les semaines, je m'excuse. Parce qu'il n'y en a pas de leader parfait, puis parce que oui, je fais des erreurs, mais c'est une des bases pour créer la confiance, être capable de dire « c'est moi qui ai eu cette idée-là, tu sais, c'était pas nécessairement une bonne idée ». Où ça a mal été enligné, où le processus pour créer ça, il était mal pensé. Je suis désolé ceux qui ont perdu du temps, mais je pense si, je pense ça, on l'abandonne-tu, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire amende honorable. C'est la base, tu sais, pour créer la confiance, d'être capable de s'excuser quand ça ne va pas comme on veut. faire amende honorable, puis se reprendre, et surtout, créer cette ambiance-là pour que les autres puissent le faire aussi.
C'est particulier quand on parle du leadership, parce que chez les enfants, on voit qu'il y en a qui ont ça inné.
Ouais.
Puis on sait pas pour quelle raison. Tu te dis, mais tu sais, même un frère, deux frères qui ont été élevés pareil, il y en a un qui va être un peu plus leader que l'autre. Souvent, c'est le plus petit. Mais tu sais, tu te dis, tabarouette, tu es dans une chambre de hockey puis tu es capable d'en identifier deux, trois, alors que ces gens-là n'ont pas été à l'université ou n'ont pas été à l'école de l'entrepreneurship. Ils sont capables de prendre la parole, sont capables de dire, ben regardez, je suivez-moi, c'est par là qu'on s'en va, êtes-vous d'accord, let's go. Puis, il y en a d'autres qui, un peu comme toi, qui ont fait un parcours incroyable. Parce que, je veux dire, les entreprises que tu as eues, c'est juste hallucinant. Moi, j'étais un client régulier du Sushi Taxi. Toi, tu l'as appris sur le tard. Tu es comme revenu à la base de c'est quoi être un leader. Es-tu capable de les identifier maintenant dans toutes les entreprises qui te restent? Là? Ben, qui te restent. Dans toutes les entreprises que tu as, en fait, es-tu capable de les identifier à même ton équipe?
Ah, absolument. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours une partie qui est un peu génétique.
Ouais.
Ça se voit chez les enfants, ça se voit facilement dans le sport, même dans le milieu de travail, à même une micro-équipe ou une cellule, une genre de petite cellule, ça se voit facilement. Mais au travail aussi, là, on revient à la base. C'est qui, dans une équipe, que quand il est là, c'est tellement plus facile de travailler avec lui? C'est qui est sur la glace, que quand il embarque sur la glace, tout le monde monte de niveau? C'est qui aussi qui prend soin de tout le monde, qui pense pas juste à lui, mais tout le temps les autres en premier. Il pense à la cohésion, il pense à l'objectif final plutôt qu'à ses petites patentes. Bien, souvent, là, ça se décline comme ça, le leadership. C'est pas nécessairement, tu sais, dans nos entreprises, malheureusement, quand tu deviens bon dans ton métier, souvent, bien, l'administration va te dire, OK, bien, tu vas devenir patron. Mais là, tu vas avoir 4, 5, 10 personnes sous ta couverte qui font la job que tu faisais avant. Mais il n'y a personne qui t'a montré, tu sais, à inspirer, à enseigner, à mesurer, à questionner, à ajuster, à donner du feedback. Il n'y a personne qui t'a montré ça. C'est juste que tu étais excellent dans ton ancien travail. Puis ça nuit, tu sais, parce que les connaissances, mais surtout la dextérité d'être capable de rassembler une équipe, ça n'a aucun rapport avec un métier technique que tu faisais à la perfection.
Pourquoi tu penses qu'on a le besoin de tout contrôler comme humain? Parce que je pense que tout le monde a un peu ça en dedans, le principe du petit boss, tu sais. On aime quand c'est nos idées qui vont de l'avant, on aime quand on contrôle notre environnement. D'où ça vient, en fait, penses-tu?
Ben, je pense qu'on a toute une manie à contrôler un peu, beaucoup ou énormément. Moi, j'étais une personne d'ailleurs qui contrôlait énormément jusqu'à temps que j'aille certains, claques à la gueule, dont faire un accident d'hélicoptère en 2016 où je me suis rendu compte que, tu sais, finalement, les choses qu'on veut micro-contrôler, c'est pas tant important. Les choses les plus importantes dans notre vie, là, tu sais, la santé, l'amour, les rencontres, mais tout ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein? Tu sais, puis qu'est-ce qu'on veut contrôler? Pourquoi? Mais parce que le cerveau est fait comme ça pour nous protéger. Fait que de quelle manière on se protège? En essayant de tout contrôler notre environnement. Malheureusement.
La boxe t'a amené quoi dans la vie, Christian?
Bien, d'abord, du focus à mon espèce de cerveau de TDAH, de mêlé. Ensuite de ça, l'humilité. Ouais. Sincèrement, comme entrepreneur, c'était pas quelque chose que j'avais. La boxe, si t'en as pas, il y a tout le temps quelqu'un qui va te le rappeler, souvent en plein nez ou au niveau du foie, là, ça fait mal. Ça, mais aussi, justement, que plus un boxeur évolue, on pense que c'est un sport qui est un sport solitaire, mais c'est vraiment un sport d'équipe. Puis le point de vue de l'autre, qui est à l'extérieur du ring, c'est-à-dire le coach, est vachement important parce que lui, il n'est pas en plein milieu du ring à recevoir des coups. Il a une perspective. Puis il voit des choses que tu ne vois plus. Alors, la boxe, pour moi, ça m'a amené aussi à une éthique de travail. Ça m'a amené mes quatre valeurs principales dans la vie, dont être élite. Puis être élite, pour moi, c'est pas être le champion du monde. C'est être dans un mindset d'apprendre à tous les jours. Ça fait 25 ans aujourd'hui que je fais de la boxe. J'apprends encore à chaque entraînement. C'est fou. Mais quand tu es un maniaque d'apprendre, tu es curieux, je pense que c'est quelque chose qui peut te faire évoluer énormément.
Puis tu as un goût de redonner avec les jeunes, vous accueillez des jeunes de la rue?
Ben, je t'avoue maintenant aussi, tu sais, avec les conférences que je donne, avec mon objectif d'écrire un livre, j'ai eu la chance de vendre des entreprises, tu sais, dans le passé. Pour moi, sentir que je suis capable de faire la différence, soit dans une équipe, auprès des jeunes, ou en coachant à l'école d'entrepreneurship de Beauce, entre autres, ben, là, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai réussi ma journée quand j'ai réussi à faire ça.
C'est fou parce que je lisais un peu, tu sais, sur ton histoire, puis tu en as vécu des affaires. Là, tu nous as partagé ton accident d'hélicoptère en 2016, mais tu sais, je lisais que tu as perdu ton meilleur ami aussi en étant, en bégayant pas nécessairement dans les meilleures gangs des années 90. Est-ce qu'il faut absolument passer à travers toutes ces étapes-là pour réaliser tout ce que tu as réalisé ou c'est un peu le but, j'imagine, avec ton livre?
Bien, je souhaite que non. D'ailleurs, mon livre a été monté comme ça. 12 petites histoires qui se calquent sur la boxe. Puis qui révèle un outil facile à mettre en pratique, bien imagé pour qu'on se rappelle. Alors,
fait que c'est pas non. Trop moralisateur comme livre.
Ah, vraiment pas, au contraire. C'était l'objectif du livre de pas faire un livre de 400 pages que, comme TDAH, entre autres. Moi, combien j'en ai acheté qui ont fini dans la bibliothèque que j'ai jamais lu. Quelque chose qui est imagé, quelque chose qui est pratique, qui donne des outils, puis qui fait vivre des émotions. Oui, il y en a qui vont lire puis qui vont rager. Il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui vont se remettre en question. Mais je pense que ça va donner un résultat pratico-pratique qui va faire évoluer les gens.
C'est pour tout le monde? Pas juste pour
je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui se pose la question s'il pourrait être un leader au travail, dans sa cellule sportive, dans sa famille, à travers ses amis. Oui, c'est pour tout le monde. Puis c'est drôle. Ça vous faire rire, pleurer, vivre des émotions définitivement.
Les commentaires que tu recueilles lors de tes conférences, c'est quoi par rapport au leadership?
Merci de nous avoir partagé tel moment vulnérable. Merci, ça m'a amené à être capable de parler de mes moments moins glorieux avec mon équipe. Puis ça fait en sorte que maintenant, il y a des gens qui sont capables de me remettre en question, sont capables de me contrarier, puis sont capables d'amener une idée qui est différente de la mienne, puis enfin, on a des vraies conversations. Merci pour tel outil. Dans mon livre, je parle, puis en conférence, mais les quatre coups d'un leader. Un boxeur, quand ça embarque sur le ring, là, ça se met pas à penser, j'envoie-tu un jab, faut-tu j'envoie double jab? Il y a quatre coups. Jab direct, crochet, uppercut. Fait que dans toute la vitesse d'un combat, il y a une seule chose, il faut que ça soit instinctif. Bien, un leader, il faut que ça soit pareil. J'amène les leaders à cibler leurs quatre coups de leader, des qualités essentielles. Moi, j'ai défini les miennes comme tac, l'empathie, la vulnérabilité et être rebelle. Pour moi, ces quatre choses-là sont importantes puis je les décline au quotidien. On a parlé de mon parcours un peu dans mes débuts. Tu comprendras que le tac, c'était pas trop quelque chose qui était inné en moi. Hein? Bien, même chose quand tu commences à boxer. Le jab, c'est souvent la main contraire. C'est quelque chose qui est tough, qui n'est pas naturel, qui ne revient pas vite puis qui peut te nuire. Mais à force de le pratiquer, en envoyer 800 à 1000 par entraînement, ben après une couple de semaines, une couple de mois, tu deviens plus confortable puis ça devient un réflexe. Ben, c'est pareil.
Tu parlais du côté rebelle. Mmh. En quoi il est positif, le côté rebelle? Parce que bien souvent, dans des entreprises, ce qu'on se fait dire, c'est que si tu es un peu trop rebelle, si tu remets l'ordre établi en question, ben ça se peut que tu te fasses taper ses doigts.
Bien, pour moi, être rebelle, c'est justement avoir toujours un sac de solutions qui est plus gros que la quantité de problèmes que tu peux frapper. Être game d'essayer un chemin que personne n'a emprunté, puis de dire, moi, cette solution-là, là, je pense que je suis capable. Puis, let's go, on va l'essayer, on va le créer. Il n'y a personne qui a réussi, mais on va l'essayer. Être capable d'assumer des idées, d'avoir de la créativité, ça, pour moi, c'est être rebelle. Ça n'a aucun rapport avec avoir les cheveux dans les airs bleus ou être un punk au Carré d'Auville.
Ou là, pas respecter
non,
les
vidéos. Non, non, non. Ouais. Ou passer sa rouge en auto.
Mais je pense que c'est tellement important aujourd'hui, surtout dans l'ère dans laquelle on est. Tu sais, moi, je me souviens, plus jeune, mes patrons étaient des boss, tu sais. Mm. Puis t'avais un respect pour eux parce que tu voulais pas mal faire, t'avais peur de tu pilles sur des œufs finalement, constamment. Mais j'ai l'impression que la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail a un besoin de créativité, a un besoin de sentiment de gang, a un besoin de respect commun, justement. T'sais, pas trop de hiérarchie, mais plus d'un travail d'équipe. Puis c'est peut-être là que le leader est encore plus important qu'il ne l'a jamais été.
Bien, tu sais, Yannick en a glissé un mot tout à l'heure, et toi aussi, d'entrée de jeu, je pense que la société a évolué. Les nouvelles générations pousse comme moi, j'ai poussé la génération des baby-boomers à l'époque, puis on était un peu, tu sais, en contradiction. Mais maintenant, les jeunes ont besoin d'être reconnus, ont besoin de sentir qu'ils font une différence dans un projet qui est global, puis que leur rapport amène quelque chose au chaînon de la réussite. Ils ont besoin de sentir qu'ils font une différence, puis ça, à tous les jours. Tu sais, parce que ultimement, le salaire, là, c'est une fois par année ou une fois ou deux ans que tu as une revue salariale puis des nouvelles conditions ou pas. Après ça, là, ce qui te rend heureux au travail, c'est pas ça. Tu oublies vite ça. Là. Tu le vois sur ton talon de paye le jeudi, mais c'est vraiment les interactions avec les autres, être capable de sentir que tu peux amener quelque chose de différent. La créativité, les questions que tu as, les idées que tu as sont écoutées. L'important, c'est pas d'être d'accord, mais c'est d'être capable d'amener ton point. Alors ça, je pense que ça fait une grosse différence dans les milieux de travail présentement.
Montrer tes faiblesses à tes employés, c'est-tu un défaut? Ça prend beaucoup d'humilité, mais en même temps, quand les employés te reprochent quelque chose, ils vont dire « Ah ouais, mais il nous l'avait dit qu'il était comme ça. Ouais. » Peut-être qu'on pourrait le prendre peut-être d'une autre façon ou ajuster le tir de telle ou telle façon.
Bien, je pense qu'il y a un côté qui est nécessaire. Il n'y a personne qui est un super-héros dans la vie. Là. On aimerait tous ça, avoir un pouvoir
Mes
magique.
Enfants me le disent souvent.
Bien, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, mais il n'y a personne qui l'est. Si tu tannant être à côté de quelqu'un, qui n'est pas à de demander de l'aide, qui est tout le temps parfait, qui est tout le temps, tu sais, on top of things. C'est tannant. Mais aussi, c'est la base pour être capable de créer une relation avec quelqu'un, de montrer son imperfection, pas pour s'en débarrasser, pour s'excuser, de dire « Je vous l'ai dit que je suis impatient à cette heure. Vivez avec ça. » Non. Plus pour dire « Je t'avertis, tu sais, Yannick, ça m'arrive d'être impatient. Puis si jamais tu subis ça, là, tu sais, t'as pas toi à accepter ça, prends la peine de me le dire, tu sais, durant notre conversation. Hey, Christian, t'es-tu pressé? Hey, Christian, exact. Je te sens un peu impatient, t'as une mauvaise journée peut-être, on peut se reprendre, là. Moi, je suis pas pressé. » Mais ça, là, c'est crucial, l'espèce de différence entre s'en débarrasser pour s'excuser ou utiliser à bon escient pour faire en sorte de contagier puis de collager l'équipe, justement, tu sais. Mais aussi, être capable d'amener un sentiment dans l'équipe aussi qu'il n'y a personne d'autre de parfait. Fait que je pense que ça vient du leader de capable de dire « Bien ça, je l'ai manqué, mais si tu es capable de dessiner cette espèce de terrain de jeu-là, les autres vont être aussi capables de reconnaître leur erreur. » Puis Dieu sait que c'est important.
Christian, tu fais pas les choses à moitié. Tu t'es dit « Non, moi, je veux pas d'éditeur, je vais m'éditer moi-même. Ouais. » On peut pas acheter ton livre dans les grandes librairies.
Non. C'est probablement une autre des déclinaisons de mon côté rebelle.
Ouais.
Je n'avais pas envie de changer le langage coloré, les anglicismes qu'il y avait là-dedans, non plus de changer la facture graphique qui je voulais différente ou les analogies à la boxe. Je l'ai auto-publié sur Amazon. Fait que en allant sur Amazon, en faisant 12 rondes de leadership, vous allez le trouver ou sur mon site web. Rebelle, R-E-B-E-L, leadership, L-E-A-D-E-R-S-H-I-P, en un mot, .ca. Vous allez voir ça.
Fish Club privé, c'est quoi ça?
C'est mon nouveau dada de sushi.
T'as jamais décroché des sushis?
Ben, la réponse, c'est oui. Oui. Mais ma clause de non-concurrence avec les sushis s'est éteinte il y a deux étés. Puis à ce moment-là, mon ancienne directrice générale de Bouddha Station était disponible, cherchait un nouveau projet. C'est une femme extraordinaire. J'avais encore des locaux de disponibles, puis mon amour des sushis comme client n'a pas changé. Puis je voulais amener deux affaires. Un produit vraiment différent, beaucoup plus raffiné, avec du poisson frais. Au Québec, on est deux sushi bars au Québec qui utilisent 90 % de poisson frais. Le reste, c'est du congelé.
Mais ça doit pas être facile.
C'est difficile. Ça nous amène à la MAPAC qui vient chez nous faire des tests en laboratoire et tout ça. C'est un chemin difficile.
Ouais, quand
c'est un chemin rebelle, right?
Quand ils arrivent chez vous, la MAPAC, il faut qu'ils justifient leur travail. Fait qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose.
Ben là, c'est le laboratoire qui décide. Hein? Fait que c'est plus eux autres. Ils prennent les échantillons et amènent ça en laboratoire. C'est que le laboratoire talks.
Okay.
Puis la deuxième chose, je voulais enfin être capable d'amener un milieu de travail où ce que les chefs, les concierges qui travaillent pour nous puissent en faire un métier pour vrai, avec un horaire qui fait du sens, avec une prévisibilité, hein?
Oui, c'était là.
sur leur horaire, sur leur salaire, sur leurs vacances, puis être capable d'avoir leur soir, leur week-end pour leur famille, bien ça, pour moi, c'était mes deux objectifs, ouais. Tu sais, de faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai parti ça, puis vraiment, c'est un projet qui va super bien.
Est-ce que tu découvres encore de nouvelles façons de faire des sushis, de nouveaux produits constamment? C'est-tu, parce que le sushi, on s'entend, là, je veux dire, quand c'est bien fait, tu dis « wow, c'est exceptionnel », mais à un moment donné, tu fais le tour, là.
Oui, bien, tu sais, ta question est bonne dans le sens où, tu sais, si on est 8 autour de la table, puis tout le monde a un livre de recettes de Ricardo avec les mêmes ingrédients, puis on a tout comme tâche de faire un gâteau aux carottes,
ouais.
Autour de la table, il va y avoir 8 gâteaux aux carottes différents. On n'a plus ben des nouvelles recettes puis des nouveaux produits, on les connaît toutes. C'est la façon de faire, l'amour, les quantités, le mariage de tout ça, puis la technique d'un chef qui met son doigté magique, c'est surtout ça, là.
Puis pour que le riz soit parfait, là, c'est quoi le truc, là?
Ben le truc, c'est de le rincer, c'est d'être patient, c'est vraiment ça. Fait que là, ta blonde fait des sushis, Yannick, c'est
non,
ça que
t'es déjà... faire, ça marche jamais.
Ouais, ben, un, faut que tu le rinces vraiment, puis après ça, faut que tu prennes le temps de le rebrasser quand il tempère.
OK. Pour les gens qui veulent avoir accès à toi, Christian, ils communiquent comment avec toi pour des conférences?
Ben, t'es gentil de poser la question sur mon site web Rebelle Leadership en un mot. Ils vont me trouver facilement, puis ça va être facile qu'on jase. Puis, ben au plaisir peut-être même de rencontrer l'équipe de Leclerc, un de ces quatre.
Ben oui, bon, on se le souhaite. Sinon, 12 rounds de leadership, le livre est disponible sur Amazon.
C'est disponible sur Amazon facilement.
Un gros merci d'être passé.
Merci vous vraiment. Autres,
bonne rentrée de radio. Merci de l'invitation. Merci.
Christian Genet, qui est boxeur, entrepreneur, conférencier, l'ancien propriétaire des Sushi Taxi de Bouddha Station, maintenant propriétaire de Fish Club privé, d'Empire Academy, professeur à l'école de l'entrepreneurship de Beauce, un gars au multiple
talent. Gros CV, hein?
Oui, ça rentre-tu tout sur une carte?
Ça va être difficile.
Pour ça, j'en ai pas.
10h52, on vient. Marceau, le midi.